Vous écoutez Radio Éphémère, nous sommes le samedi 14 mai 1911. Nos programmes pour cet après-midi. À 13h du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h du reggae avec Dirty Dancing. Et à 17h, Éphémère 7 lancée à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le Buddy Movie que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end.
Mélanger les genres, c'est peut-être ça qui manque à la BD. Elle est restée très longtemps que BD, et on peut mélanger la photo à la BD, on peut mélanger des tas d'éléments avec la BD, et qui vont peut-être à ce moment-là amener les différentes personnes qui sont un petit peu plus frileuses, on va dire, vis-à-vis de la BD, à venir voir et à se dire, oui, tout compte fait, la BD, c'est effectivement le 9e art, c'est un art.
Radio Éphémère présente le supplément week-end, le magazine des cultures geek, avec du sport, Ultimatum, Das Creech et la participation exceptionnelle de JB.
Bonjour à tous, bonjour à vous, bonjour Dus.
Bonjour.
Et pas de Thomas cette semaine parce que tout simplement il est en ce moment à Cannes. Non mais il fait du cinéma, il tourne aujourd'hui.
Ouais.
Il fait un tournage en extérieur, il va beaucoup s'éclater sous la pluie. Seul jour qu'il pleut depuis, oula. Non mais sérieux, il fait particulièrement sec en ce moment sur Toulouse et la pluie là elle est vraiment bienvenue et encore on est comme
oui, c'est là qu'il doit remercier le commandant Cousteau pour avoir mis au point les caméras sous-marines.
Là c'est un poil de vache, hein. Il pleut pas tant que ça quand même. Pour commencer d'abord nos excuses vis-à-vis de ceux qui nous écoutent en différé par le podcast puisqu'effectivement il a manqué un petit quart d'heure à partir de 13h15. Pendant la partie télévision de Du Sport, vous avez sur l'écrit, vous avez le résumé de ce qui a été dit. Mais désolé, ça arrive de temps à autre. Voilà, on espère que ça va pas arriver pour cette émission. On va commencer aussi directement par l'agenda, tout simplement parce que on a des auteurs qui sont plutôt intéressants qui arrivent. Hein, ce que l'on a écouté en introduction, c'est l'interview de Michel Joss, puisque c'était le festival de la bande dessinée à Toulouse la semaine dernière. Il faisait beau, il faisait beaucoup de vent, et le dimanche était superbe, ceci dit.
Ouais, moi j'ai remarqué qu'il n'y avait pas trop de monde, enfin en début d'après-midi. Mm-hmm. Mais par contre, venu incognito, comme ça, tout seul, avec personne autour de lui, j'ai remarqué un certain joueur du Stade Toulousain et de l'équipe de France qui venait comme ça.
Plutôt cool, détendu quoi.
Ouais, tout à fait détendu, tranquille.
Bref, c'était plutôt fun quoi. C'est vrai qu'il y avait énormément d'auteurs qui étaient présents. C'était de... Peut-être que vous aurez un petit regret, en tout cas aujourd'hui. Antonio Altarriba et Kim sont en dédicace à la librairie Ombre Blanche pour leur nouveau one-shot qui s'appelle L'Art de Voler. C'est sorti chez De Noël Graphique. Donc ils sont en dédicace. Alors selon la dépêche, c'est à partir de 17h. À mon avis, non, c'est un petit peu plus tôt. Donc c'est aujourd'hui à la librairie Ombre Blanche. D'un autre côté, la semaine prochaine sera en dédicace Jason pour L'Île aux 100 000 morts, qui est sorti chez Glénat. C'est sur un scénario de Velman dont on a déjà parlé plus d'une fois hein, quand même, pour aussi bien pour Seul que pour Violine et tous ses BD. Il aime bien faire les histoires un peu noires. Là, l'île aux 100 000 morts, c'est l'histoire d'un type qui est échoué sur une île aux pirates où soi-disant il y aurait un grand trésor, et en fait cette île est un immense cimetière. Je vous laisse deviner pourquoi. Quand on promet un immense trésor, ce qui se passe. Donc il est en dédicace aujourd'hui à la librairie Joseph Gibert, c'est à partir de 15h30 normalement. Pardon, il est en dédicace la semaine prochaine, voilà. Par contre, j'ai pas pu me renseigner parce qu'il est norvégien. Mais à mon avis, il se démerde plutôt bien en anglais. C'est vraiment une pointure de la bande dessinée underground qui a eu plusieurs prix, puisqu'il a eu le prix Eisner. Il a été plusieurs fois remarqué sur plein de festivals. Il a Time Magazine lui a notamment fait une couverture dithyrambique là-dessus. Il a aussi les prix Harvey Ignaz Awards, c'est-à-dire si quand même dans l'underground il pointe plutôt bien, hein. Et là enfin il est je vais dire vraiment dans le mainstream pour le coup. Pas vraiment, parce que quand même ça reste enfin c'est chez Glénat, mais ça c'est une bande dessinée qui se veut un petit peu simple, un peu comme bon, je vais dire un peu dans le style de Lewis Trondheim ou ce qu'ils avaient fait pour le polar qui avait lieu dans la neige, là j'ai oublié. Ah, t'en souviens, enfin c'est un peu dans ce style là, très dépouillé, et en fait non, hein, c'est prétexte pour après aller vraiment dans l'hyper noir de ce côté là. C'est vraiment un bouquin qui est assez agréable à lire. L'île aux 100 000 morts, donc scénario de Velman et dessin de Jason. Jason sera donc en dédicace à la librairie Gibert samedi prochain. On va continuer sur la revue de presse avec le nouveau Psychopathe. Enfin, nouveau, je sais, je l'ai reçu il y a 15 jours. Je suis allé un petit peu vite.
Oui, mais tu as oublié de le programmer. Enfin, on n'a pas eu le temps la semaine dernière.
On
n'a
pas eu le temps. Enfin, de toute façon, on avait déjà un programme qui était assez costaud, puisque là, c'est un petit peu d'actualité. Et pas qu'un peu, puisque c'est un spécial, le nucléaire.
Yes.
Pour ce numéro 231, 4,90€ en kiosque. Comme d'habitude, et sans publicité, encore moins de publicité d'Areva. C'est un petit peu dommage pour le coup. Et on retrouve Carali, on retrouve bien évidemment ben, tous les dessinateurs de la bande, Sanson, La Serpe. Il y a bien évidemment l'actualité au Japon, mais aussi sur, je vais dire, le nucléaire en général. Je recommande. Mais alors sincèrement, parce que des fois ils font des choses qui sont plus ou moins intéressantes, et d'autres fois et ben ils ont on sent qu'ils sautent le filon sur l'actu et que c'est vraiment intéressant, que c'est vraiment bien. C'est d'aider la science qui rappelle par exemple que le nucléaire, on ne peut pas en sortir comme ça. Niveau primo du bilan carbone et tout ça, ben non, on ne peut pas. Et les énergies alternatives, ben les éoliennes, personne ne les veut chez lui. Et les cellules photovoltaïques, ben c'est quand même très polluant à faire. Et les barrages hydroélectriques, c'est marrant, mais tout le monde s'en offusque parce que ça noie les voilées et tout ça. Et puis aussi, ça représente un risque, hein, c'est pas pour rien. Il y a eu notamment un incident célèbre à la fin des années 50 où il y a eu toute une vallée comme ça qui a été balayée en France.
Ouais, ouais, il y a eu plus de 150 morts, un truc comme
ouais,
ça.
Enfin, oublié,
ça a été énorme. Hein.
J'ai oublié le nom, voilà, c'est dans les Alpes, ça je m'en souviens. Et où un barrage avait cédé. D'ailleurs, la question est justement des barrages existants actuellement. D'ailleurs, en période de sécheresse, on reparle de retenue d'eau et tout. C'est intéressant, on t'y recoupe. Donc là aussi, il y a des éléments vraiment très intéressants sur la durée des déchets nucléaires et tout ça. Et aussi, il y a Alain Godet qui fait chaque année un dictionnaire insolite qui est vraiment intéressant. Là, pour le coup, je sais pas, si vous vous intéressez un petit peu justement à l'histoire de la bombe nucléaire qui a été faite dans la Seconde Guerre mondiale, comment on faisait pour séparer les isotopes 238 des 235 pour faire la bombe nucléaire, puisque ça c'est l'uranium 235 qui est vraiment intéressant, il faut en raffiner un certain volume, c'est-à-dire 5 kilos, pour en faire une masse critique susceptible d'exploser. Il raconte ainsi que dans les bâtiments pour isoler les uraniums, au lieu d'utiliser les centrifugeuses comme le fait par exemple l'Iran en toute puissance actuelle, puisqu'il faut des centrifugeuses très précises hein, sur plusieurs bancs pour récupérer, à l'époque on utilisait en fait une espèce d'accélérateur à particules, sauf que c'est pas des électrons, c'est des atomes qui pèsent plusieurs centaines de millions de fois plus lourds, qu'il faut accélérer et qu'il faut essayer de dévier. Donc on faisait des bâtiments qui ressemblaient à des grands U, et on les déviait comment ? Ben, comme dans les tubes électroniques des téléviseurs, hein, c'est-à-dire avec des électroaimants. Seulement, on n'avait pas assez de cuivre pour le faire, effort de guerre oblige. Donc ce qui s'est passé, on a réquisitionné 14 000 tonnes d'argent auprès du Trésor américain pour le temps de concevoir cette bombe, qu'ensuite on remettait au Trésor américain, on refaisait fondre. C'était pas du tout radioactif, hein, c'était juste des bobinages. à une certaine distance, donc qu'il a fallu comme ainsi monter. Si vous allez à la Bibliothèque nationale consulter les écrits de Pierre et Marie Curie, ce sont des documents précieux historiquement et très importants. Si vous souhaitez les documents, si vous souhaitez consulter ces documents sous réserve que vous avez l'imprimature des conservateurs et tout ça, vous devez signer une décharge qui stipule que vous êtes parfaitement au courant que les documents sont radioactifs. Bah oui, hein, on ne connaissait pas, et même à l'époque, le nucléaire, enfin la radioactivité, on supposait que le radium faisait plein de choses extrêmement intéressantes, puisque on faisait des Marie Curie faisait produire pendant la Première Guerre mondiale des aiguilles qui en radium pour en fait guérir
pour soigner.
Ça servait en fait de désinfectant à l'époque. Et c'est resté puisqu'on faisait des léoradium, etc. dans les années 1920, jusqu'à ce qu'il y en a qui disent c'est marrant, mais il semble qu'on ait des recrudescences de cancer en ce moment. Faudrait peut-être un petit peu se méfier et regarder les rats de laboratoire. Bref, tout ça, c'est extrêmement intéressant. Il y a notamment l'histoire de l'ingénieur Tsutomu Yamaguchi, qui le 6 août 1945 est à Hiroshima en déplacement professionnel, a vu la bombe lui péter à la gueule à 2 km. Il en a survécu. Il est rentré voir il est rentré voir sa famille et ses collègues quelques jours après à Nagasaki. La seconde bombe lui a explosé à 3,5 km, et il est mort le 4 janvier 2010 à 93 ans. Donc d'un côté, il a eu de la chance dans le malheur, mais c'est vrai qu'on compte les 215 000 morts immédiates de ces bombes, mais on n'a pas le recensement exact de tous ceux qui sont morts d'un cancer bien après. Enfin, on les soupçonne et tout ça. Ça donne déjà un rapport à la vie qu'ont les Japonais, justement, vis-à-vis du nucléaire. Ils ne font pas, en général, en dépit de connaissance de cause. Et on rappelle quand même que dans les années 60-70, quand justement la centrale de Fukushima était planifiée et devait être construite, il y avait quand même un débat qui était très lourd et beaucoup plus violent qu'en France, justement, de ce côté-là. Hein. C'était beaucoup plus important. Tout ça, je vous laisse consulter avec les BD, bien évidemment. C'est dans le Psychopathe de mai 2011, numéro 231, mensuel, en kiosque, 4,90€, avec Carlite, Bloob, et surtout Kaza, qui fait une illustration assez noire de ce côté-là. Et merde, je suis en fin de disque, voilà. Donc j'en ai parlé pendant 7 minutes, Jacques Rénal et tout le reste, et une BD, une perle noire, un disque ressorti de 1974, donc on parle pas que du nucléaire, on parle aussi de Lena qui avait sorti un disque qui s'appelle « Dis papa, téléphone-moi », en disant « Hey, quand vous cherchez quelqu'un, vous avez copain d'avant, vous avez Skype, vous avez Google, vous avez Facebook et tout ça ». Même du sport à son blog, hein. On a fait un tournage là-dessus mercredi dernier. Vous verrez ça, on vous en reparlera en juin. Et ben, dis papa, téléphone-moi. Du sport, toi, tu connais, du coup, tiens, je te le passe.
Ah ouais, ouais, non, mais bon, attends.
Mais par contre, c'est autre chose, hein.
Ouais, non, mais bon, c'est assez marrant parce que bon, c'est une pochette. On voit la pochette de 45 tours, là. Alors, bon, à l'époque, c'était comme ça, hein. C'était des 45 tours,
Ouais, c'était pas le single qu'on sortait directement sur iTunes.
Voilà, ouais, c'était des vinyles donc, et avec une photo d'un jeune ado de l'époque avec sa magnifique coiffure flamboyante, typique vintage, hein, de toute façon.
Oui.
Et alors bon, on se dit ouais, c'est un disque de variété de booze et des trucs comme ça et tout, mais qui parle d'un sujet vachement sérieux. Hein. C'est quand même l'histoire de. À l'époque, ça se faisait un petit peu moins quand même dans les années 70-60, parce que c'était vachement plus mal vu aussi. L'histoire des couples éclatés, hein, et donc la mère célibataire ou le papa célibataire, hein, ça dépend qui avait la garde. Généralement à cette époque-là, c'était quand même la maman. Et donc, eh bien, c'est l'histoire d'un petit garçon ado, on va dire, hein, qui cherche à savoir qui est son père, qui cherche à renouer le contact. Donc, et sous des dessous très lénifiants, très variété française de l'époque, hein, ouais, ça parle quand même d'un sujet qui est quand même assez grave.
En haut de la colonne de droite, il me semble que tu as les paroles qui sont un petit peu tristes, puisque en fait, c'est un gamin qui n'a jamais connu son père. Là, voilà, tu en es clair, et il dit mais
voilà,
papa,
16 ans que je te ressemble de plus en plus et tu ne m'as toujours pas vu. Maman m'a dit souvent quand j'étais tout petit, tu nous as quittés pour conquérir d'autres pays. Maintenant que tu as assez voyagé, maintenant viens me raconter. Enfin, tu vois. Alors, ok. Il doit y avoir une musique qui doit être assez gentillette comme ça, peut-être un petit peu doucement nostalgique. Mais les paroles, ben, elles bastonnent quand même et tout quoi.
Voilà,
alors, si c'était un groupe de rock anglais qui faisait ça, on
il aurait fait du hip hop
au génie.
Il ferait du hip hop maintenant et voilà. Papa il aurait pas du tout envie d'appeler. Déjà, qu'est-ce qu'il a envie d'appeler comme comme le dit assez sèchement hein, en fait dans la chronique Jean-Luc Coudray, c'est-à-dire que qui c'est qui a envie d'appeler chez son ex en sachant qu'elle est devenue moche et qu'elle n'en a absolument plus rien à foutre de sa gueule pour parler à un grand gamin à qui il n'a jamais adressé sa parole et qui ne demande s'il a réussi dans sa vie. C'est super excitant, enfin voilà. Comme ça qu'à l'époque, c'est du... Donc tout ça, c'est dans le psychopathe. Vraiment, il y a des fois où il y a des numéros qui sont plus ou moins intéressants dans les sujets politiques, enfin, dans la manière dont il le traite, c'est surtout ça. Là, c'est vraiment un excellent bouquin. Je rappelle quand même que c'est la bande dessinée vraiment adulte. Ouais, et ben ça l'est, vraiment, voilà, une fois de plus. Ain't that a lot of love? Tom Jones avec Simply Red, tiens, pour le coup. Supplément week-end, vous écoutez Radio FMR midi 15. Johnson Simply Red extrait. Ouh, oui, je sais, elle remonte un peu cette compile Reload, mais elle fout un putain de smile. Donc c'est avec, donc c'est une reprise. Ain't That Lot of Love. J'ai oublié de qui d'ailleurs. On commence avec les sorties BD. Avec la fin du monde. Avant le lever du jour. C'est donc un recueil d'histoires de Inio Asano qui vient d'être traduit dans la collection Made in chez Kana. Et Asano, bah, je pourrais quand même le faire entrer. Bah, alors c'est vraiment un petit peu en forçant dans le cadre informel qui est la nouvelle manga, c'est-à-dire une description de la vie quotidienne. Sauf qu'il aime en accentuer le côté glauque. Je sais pas si vous vous souvenez, quand on avait parlé du quartier de la lumière, à propos du désespoir qui menait au suicide, c'était vraiment, vraiment, vraiment très, très sombre. Un monde formidable qui était un récit qui rappelait les dures réalités du monde à ceux qui courent après leurs rêves. Et surtout Solanine, dans lequel il se révèle sans artifice, en parlant de l'amour, par-delà les drames. D'un autre côté, Inio Asano est un dessinateur de gags manga. Ça peut surprendre, mais c'est-à-dire que normalement, il fait plutôt de l'humour, quoi. Ça fait un petit peu bizarre, quoi. Et dans cet ensemble d'histoires courtes, la fin du monde avant le lever du jour, tout tourne autour de la frustration. Celle de l'argent, celle du bonheur, en avoir ou pas. Et bien souvent, comment retrouver les rares moments du bonheur? Parce que l'argent, après tout, c'est plutôt le bonheur qui est à chercher. Des premiers émois d'adolescent allant jusqu'au baiser volé, un écrivain à succès qui angoisse devant la page blanche, la joie affichée et permanente de la vendeuse du kiosque, des fugues, des moments de jeunesse, tout cela constitue une immense collection de mélancolie. Est-ce que c'est être vraiment adulte que de renoncer à créer quelque chose par soi-même? Simplement, quelle est cette fameuse fin du monde selon Asano? Ne s'agit-il pas plutôt finalement d'une métaphore? Je vous laisserai le découvrir. Graphiquement, son dessin est réaliste, capable par le cadrage de montrer aussi bien un moment d'une rare plénitude que d'immense détresse. Dessiner la solitude dans un vaste espace vide, ou serre au milieu d'une foule, ou bien un moment de bonheur dans un lit de rivière crade au pied d'un pont. Il a vraiment le sens de cadrage et de la mise en scène assez remarquable, et les histoires de cette anthologie montrent toute la palette de son art. Ce n'est pas forcément le meilleur album de sa carrière, comme il écrit dans sa post-fast, sont plutôt des histoires faites durant les 10 ans de sa carrière, vu qu'il est entré brusquement du lycée à l'industrie de la bande dessinée, c'est-à-dire à dessiner ses 10 à 12 pages par semaine, comme cela. Donc des histoires à échappatoire, le blues d'un créateur de série, et surtout le blues de tout le monde. On s'y retrouve dans certaines histoires, dans les situations, dans les états d'âme, peu importe que ça se passe au Japon, peu importe qu'on n'est pas dans la même situation exactement. C'est un livre qui est touchant, et même si le sens d'une lecture n'est pas celui d'une bande dessinée franco-belge, même si certains codes narratifs sont propres au manga, les viserés noirs pour les flashbacks, je pense que c'est un bouquin qui devrait aller à découvrir ce que sont réellement les mangas, qu'il n'y a pas que Taniguchi à montrer le réel. Ezio Taniguchi, La fin du monde avant le lever du jour, donc c'est cette collection, je vais dire, cet omnibus d'histoire courte, et c'est dans la collection Made in Shikana. Par contre, si ça va pas trop dans le moral et tout, c'est pas trop le moment de le lire, attention. Ouais, je sais, les violons là-dessus, c'est un petit peu hardcore. Ça fait partie de la compilation du Fer 2011, puisqu'il s'agit du Chapelier Fou, Secret Handshake, compilation du Fer, donc des salles de concert de l'ensemble de la France, et en général, qui permettent à faire une sélection pour le Printemps de Bourges. En compilation avec Richard Live Music, Wii FM, Les Inrecuptibles, Libération, France 4 et bien évidemment l'ensemble des radios Ferrarock. FMR fait partie. C'est pour arriver à remettre le nom de la radio au milieu de tous les quarts d'heure. Mais je vous promets quelque chose de beaucoup plus joyeux. Shumi, le tome 1 donc d'une nouvelle série scénarisée par Zidrou, qui fait entre autres l'élève du Kobu et tout ça, et dessiné par E411, que l'on voit beaucoup d'habitude dans Spirou. Vas-y.
Non, je voulais dire que tu t'es trompé avant quand tu as désannoncé le bouquin.
Ouais.
C'est Inyo Asano et non pas Inyo Taniguchi.
Merde. Ouais, non, parce que je parlais de Taniguchi, donc peut-être je me suis planté, oui, effectivement.
Non, j'avais un doute, et puis c'est ça que je viens de vérifier.
Par contre, c'est chaud, hein, mais assez noir. J'espère que le bouquin suivant, hein, quand tes petits enfants vont le lire, enfin bon, je vais pas casser de suite mon script. Zidrou et E411, donc on voyait régulièrement dans Spirou, travaillait aussi des fois dans Fluide Glacial. Et là, ça s'appelle Shumi, le premier tome s'appelle Comme sur des roulettes, ça vient de sortir aux éditions Paquet. Alors d'habitude, j'aime pas le faire, mais comme je trouve que c'est bien trouvé, eh ben je vais citer le quatrième de couverture. Il est jeune, il est beau, il est blond, il roule dans une belle bagnole. Encore un héros cliché de plus. Alors c'est pré-publié dans Dauphin, et Dauphin, eh ben c'est un bimensuel éducatif belge, un magazine d'éveil destiné aux enfants en primaire, qu'en général les écoles peuvent acheter, aussi les parents d'élèves. Et une place est faite à la bande dessinée en plus des dossiers et des jeux conçus dans l'optique du programme pédagogique. Zidrou et E411 y ont donc fait apparaître un héros, évidemment dans la même tranche d'âge que les lecteurs, pour qu'il y ait un sentiment d'identification. Mais le fait que cela soit pour une revue parascolaire, peut-être que c'est ce qui a amené à cette différence, cette originalité. Et Shumi, le gamin de la BD, ben, il est cloué sur un fauteuil roulant, en fait. Par paraplégie. On ne sait pas exactement pourquoi. Il prétend qu'un extraterrestre s'est trompé en réglant son paralyseur sur lui. Ses parents sont adorables, sa sœur est complice, mais il aimerait aller au-delà de son handicap. Il est donc obligé de rappeler à son professeur, qui refuse un traitement de faveur dans les notes de ses devoirs, que c'est pas parce qu'il est en fauteuil roulant qu'il doit faire moins de fautes de français. Il veut aussi participer à la gym, mais à la mesure, et il aimerait se faire des copains. Sauf qu'évidemment, il y a le atteigne de l'école, bon ça reste soft hein, quand même, et que l'extraterrestre existe vraiment et a un esprit belliqueux. C'est donc plutôt osé et intelligent d'en faire un héros positif qui appelle à la tolérance, mais pas à l'apitoiement, parce que évidemment on se dit « Ah le pauvre, voilà quoi, il est en fauteuil roulant et tout ». Non non, lui il veut être un gamin comme un autre, il est débordant de vie, il a justement encore plus envie de s'éclater et tout ça, ou d'apprendre à l'école. Ça relativise, quoi. Donc, on imagine que l'écriture de chaque gag demande du coup un calibrage particulier, c'est pas évident. Et ben, ça reste très soft et simple, puisqu'on s'adresse aux 6-8 ans. Mais c'est une performance qui mérite d'être saluée, quand même. Shumi, comme sur des roulettes, graphiquement, c'est loin d'être le meilleur album de E411. Hein. Il a fait des trucs beaucoup mieux au niveau graphique. C'est un choix, un parti pris... J'ai allé oublier de le dire, effectivement, et tu fais bien de me le dire, du sport de ce côté-là. Donc je termine ma chronique, peut-être. Mais t'as bien fait parce que j'allais oublier.
Ouais, ouais.
C'est un choix, un parti pris, celui de mettre en avant le plus les gags de la situation d'un jeune garçon cloué dans son fauteuil roulant. Plus les gags que la situation d'un jeune cloué dans son fauteuil roulant. Probablement un vie, et c'est peut-être une belle méthode d'arriver à faire accepter le handicap à d'autres enfants. En soi, c'est vraiment bien foutu, et donc du sport, bah, il a... c'est la preuve que je suis nul, j'ai failli l'oublier. Donc dis-le.
Non, mais c'est assez sympa parce que bon, ben les premières pages de garde, la page de couverture, plus la présentation des personnages, et au dos de la présentation des personnages avant le début de la BD, il y a une lettre qui est manuscrite, écrite par Shumi justement, où il dit « Cher Monsieur Handicap International », donc l'association internationale Handicap International, j'ai appris que vous vous engagiez en faveur des personnes handicapées. Je trouve ça vraiment très chouette de votre part. Pour vous encourager, j'ai décidé de vous reverser 1 € pour chacune de mes BD vendues, ou 1 franc 50 suisse, Schweiz Franken. Et... amicalement, Shumi. Voilà. Donc une raison de plus pour acheter le bouquin, hein, pour vos enfants. Alors c'est vrai que c'est un graphisme vraiment très agréable, très simpliste.
Trop simpliste à mon sens entre guillemets, mais d'un autre côté ça passe tout à fait. Hein.
Oui,
on a l'impression de lire du Kid Paddle ou du Captain Biceps et ce genre de choses. Enfin non, Captain Biceps encore est trop complexe.
Ouais.
C'est très simplifié. Mais d'un autre côté, on est surpris par l'humour, la qualité. Bon après, je ne sais pas si tes gosses vont demander un fauteuil roulant motorisé. J'espère que non.
Non. Ça ira comme ça. On en a assez des trucs roulants, là.
En tout cas, ça vaut vraiment. Shumi, tome 1, comme sur des roulettes, aux éditions paquets par Zidrou et E411. Pareil que je parle trop. You're talking too much, the butt shakers. The Butt Shakers, extrait de leur premier album actuellement en rotation à l'antenne, Hate Ditches and Hurt Ditches, You Talk Too Much, et franchement ça déchire, ça défonce, merci Dus pour la recommandation. Hop, oh, pardon, je...
Ouais, tout simplement parce que c'est une OP Ferrarock.
Alors,
un petit peu de comics là, juste dans la série Marvel, les grandes sagas, hein, qui est encore une OP commerciale bien entendu. C'est le numéro 3 donc qui vient de sortir, hein, et je rappelle, hein, que la fréquence de distribution est assez rapprochée, c'est un tous les 15 jours. Alors il y a certains kiosquiers qui font les choses bien et qui laissent encore la parution précédente quelques temps histoire d'écouler, parce que généralement
en général ils renvoient immédiatement dès qu'il y a le niveau de...
parce qu'ils sont obligés de renvoyer les trucs, hein, les invendus quoi. Là il y en a encore quelques des anciens, enfin du moins chez mon cosquier, je vais pas faire de pub donc vous démerdez, hein, peut-être que d'autres font pareil, mais là le numéro 3 donc est consacré à Iron Man. Alors ça ne vaut pas pour la nouveauté, bien sûr, parce qu'il s'agit des grandes sagas, c'est-à-dire
des moments clés, des moments marquants.
Tout l'historique, hein, de l'histoire de certains super-héros. Et si, par exemple, le numéro précédent, Thor, était consacré à un arc ou plusieurs histoires, quand même, qui ne se suivent pas forcément, mais qui ont un rapport dans la période entre elles. Là, c'est relativement récent. Alors ceux qui achètent du Marvel depuis, on va dire, plus de 5 ou 6 ans, ont déjà l'histoire de Iron Man qui est dans ce numéro. Et je les comprends tout à fait, parce qu'à l'époque, c'était sorti dans Marvel Heroes, qui était un tout neuf, hein, pratiquement, hein, qui avait même pas un an d'existence. Mais par contre, quand on lit qui est le scénariste et qui est le dessinateur, là on se dit, ah là je vais quand même acheter, il n'y a pas de problème et tout. Alors je vais vous avouer que j'avais acheté le Marvel Hero à l'époque parce que justement il y avait le début de cette histoire de Iron Man, Tony Stark, mais j'avais pas suivi parce que bon, le rythme de dessin du dessinateur en question est très très lent et c'est normal parce qu'il ne dessine pas, il peint, d'accord. Ok, mais en plus, il n'était pas trop connu à l'époque. Hein. Il était surtout spécialisé pour ses couvertures, ce qui se comprend parce qu'il est vraiment très très lent à la livraison. Hein, donc impossible de suivre un certain rythme qu'imposent les éditeurs de chez Marvel. Et là, bon bah ok, ils se sont dit c'est une saga qui a débuté en 2005 dans sa version originale et qui s'est terminée fin 2006. Pour te dire, hein, pourtant il y a pas des masses de pages, quoi, il y a 50-60 pages, hein, pour te dire, 2 ans pour faire ça, mais par contre, avec un scénariste qui s'appelle Warren Ellis et un dessinateur, peintre, on va dire, qui s'appelle Adi Granoff, on se dit, bon d'accord, ok, ça vaut le coup. Adi Granoff qui, justement, à l'occasion de cette série qui s'appelle In Extremis, Extremis, avait un petit peu relooké l'armure d'Iron Man, armure dont Tony Stark ne se vêt qu'à la fin,
qu'à la toute fin
de cette histoire, hein, parce que bon ben
elle a des propriétés très différentes.
Hein, voilà, il y a des changements de propriétés. Enfin bon, ça c'est dû au talent de Warren Ellis. Ok, on avait compris. Hein, mais par contre, ce nouveau look, a inspiré justement un certain réalisateur qui s'est dit ah mais je vais copier le look et tout, je vais me servir de ce look.
Il l'a pas copié. Enfin, Adi Granoff. Réécoutez l'interview dans le site supplémentweekend.fr puisque nous avons eu la chance de rencontrer Adi Granoff, qui est très accessible, qui est européen, donc il a une certaine sensibilité aussi par rapport à tout ça. Et aussi, il explique comment il a été recruté par l'équipe du film pour faire le design, justement, de l'armure du premier film, qui est resté d'ailleurs. Et c'est justement par cet arc qu'il a été, justement, entre guillemets, casté. Hein, mais Marvel ne s'était pas trompé, quoi.
Tout à fait. Alors, à la différence d'autres dessinateurs plus classiques, on va dire, hein, dans le monde des comics, là, bien, Adi Granoff, c'est certainement dû au fait que sa technique est quand même assez spéciale et assez lente. Eh bien, au niveau case et tout ça, ça reste très très linéaire, très carré.
T'as l'impression que c'est vraiment des photos qui sont prises, et dans la composition, dans l'artistique, dans les matières, la manière dont ils travaillent justement, c'est pas des aplats du tout, mais les surfaces en elles-mêmes, il arrive à donner des textures qui sont vraiment intéressantes. Enfin, quand on l'a rencontré, on était c'est un grand.
Voilà, donc c'est dans la collection Marvel les grandes sagas. Hein, je rappelle en principe le délai de distribution, hein, c'est tous les 15 jours. Donc là, c'est sorti. Eh ben, vous en avez peut-être jusqu'à la fin du mois. Donc profitez-en. Par contre, là, le prix a augmenté. Là, c'est le prix définitif. Hein, il y aura 10 sorties. On en est à la troisième. Là, le prix est quand même monte à, on va dire 9 euros. Hein, c'est pas 8,95, non, c'est 9 euros. Et vous avez en prime, je l'ai pas ramené ce coup-là, le troisième épisode de cette série Marvels. Et alors là, dernière fois, je vous en avais parlé parce que quand même Alex Ross qui dessine. Mmh. En fait, ce n'est pas des inédits, c'est la réédition de cette fameuse série Marvels. Sorti par Alex Ross et j'oublie l'autre, quoi. Donc, laissez tomber. Enfin bon, Mark Waid, me semble-t-il, quoi. Donc,
là, pour le coup, je suis plus sûr. Mais bon, par contre, Marvel, c'était sorti à l'époque dans un très grand format. Hein, il faut imaginer plus grand que les Delcourt et Soleil Standard. Donc, on avait vraiment une belle approche, quoi, du dessin et de l'œuvre d'art. Là, comme il s'agit d'un format, ramener un format comics.
Voilà.
comment peut-être que vous en profiterez très largement d'ailleurs je pense hein, mais du coup ben vous allez peut-être perdre vraiment l'approche qui est qui était époustouflante à l'époque parce que c'était un très beau papier et tout le reste.
Oui oui non mais bon là ça donne déjà une indication et ça peut inciter peut-être les gens à chercher l'original ou la réédition hein, parce que c'est quand même Marvel, c'est un truc qui date quand même de Disney qui est sorti en 1994 hein, donc ça remonte à pas mal loin, mais c'est aussi une histoire qui englobe l'ensemble des de la galaxie des super-héros de Marvel et qui a de par le scénario a modifié un petit peu l'approche et a modifié un petit peu l'histoire linéaire des héros Marvel et de la galaxie Marvel. Donc c'est quand même un des bouquins fondamentaux à avoir si vous voulez vraiment connaître tout ce qui s'est passé et pourquoi on en arrive à certaines choses.
Bon, il y a des pantalons quand même qui sont pas vraiment faits pour les fauteuils en bois à bout arrondi parce que j'arrête pas de glisser en dehors. C'est pour ça que vous avez entendu trois blums depuis le début de l'émission. Et on va enchaîner avec du livre.
On va enchaîner avec du livre. Alors, c'est pas vraiment un livre. Je vous avais présenté, il y a plus d'une année, hein, le bouquin de Nicky Six, bassiste de Motley Crue, ex-bassiste de Motley Crue. Un bouquin qui s'appelle Heroine Diaries. Bon, c'était la version anglaise.
J'ai rêvé, mais hier il y avait Motley Crue dans Bones sur la 6. J'ai vu sur le générique rapido pendant que je bossais.
C'était une rediff.
Oui,
la rediff,
sûrement une rediff.
Oui, la rediff. Hein, quand c'est quand ils font ce fameux rêve et puis qu'ils se retrouvent patron d'une boîte. Et en fait,
je bossais.
Et à la fin, donc, bah, il se passe que ils arrivent à faire venir Motley Crue pour jouer un morceau sur scène et tout. Bon, c'est gros fun. Enfin bon,
c'est un gros pétage de plomb.
Oui, oui, oui. Mais j'en avais parlé déjà à l'époque hein, de ce fameux épisode. Alors, Nicky Six, donc, qui avait sorti ce Heroine Diaries il y a 2 ans, on va dire, dans sa version originale, qui est maintenant disponible en version française en édition du camion noir ou camion blanc, je me rappelle pas. Enfin, il y a c'est camion hein, de toute façon. Hein, par contre, l'édition originale coûtait bon aux alentours de moins de 20 euros, alors que l'édition française coûte un petit peu plus de 30 euros, quoi. Hein, et avec bon bah on va dire une couverture, on va dire un petit peu plus légère, quoi. Hein, il y a pas de problème. Là, il s'agit également de l'original, mais c'est sorti et aux États-Unis et dans le reste du monde en même temps, donc il n'y a pas de problème. Ceci pour ceux qui préfèrent la version lisible, c'est-à-dire en français, parce que c'est un album de photos. Il y a beaucoup de photos faites par Nicky Six. Alors bien sûr, hein, c'est thématique à lui. Alors bon, ça part un petit peu.
C'est un petit peu gothique, quoi.
C'est un petit peu gothique, mais également.
Ceci dit, il y a un putain de travail sur le noir et blanc et tout ça qui est vraiment impressionnant.
Même il y a la couleur. Hein, y a aussi des, il y a de la couleur et tout. Il y a du travail de montage qui est assez intéressant, quoi. C'est un univers spécifique. Hein, il y a pas de problème et tout. Ça c'est sa copine actuelle, quoi.
Voilà, si vous êtes des gros fans de Nocturnal Tear ce mercredi soir sur notre antenne.
Et
pas
encore
de problème.
Je pense qu'il doit être vendu, je pense que pour eux, il doit être vendu quoi déjà quoi parce que mec a fait son mea culpa et tout est clean maintenant quoi, il s'est même tourné vers Dieu, enfin bon toutes ces conneries habituelles quoi, un newborn Christian et tout ça. Bon, il est pas newborn Christian. Enfin bon, il a un petit peu tourné kazakh, on va dire. Et c'est également, c'est un journal. Hein, c'est ça qui est aussi assez intéressant. C'est toujours un journal. De toute façon, il continue de tenir ce fameux diary, hein, le journal. Avant, c'était à propos de son accoutumance, de tous les extrêmes liés à un concert de rock, à un groupe de rock metal. D'accord. Là, ça concerne des sujets un petit peu plus gentils. Ça concerne également les tournées qu'ils font avec son nouveau groupe 6AM. Mais c'est vraiment un beau livre, hein. C'est couverture brochée, cartonnée, tout ça, quoi. C'est pas mal du tout. Ça vaut vraiment le coup pour les gens qui aiment bien ça. Alors comme justement moi, ce qui me déplaît un petit peu, c'est justement le côté repenti, tu vois. J'ai fait plein de conneries avant, mais maintenant que j'ai trouvé Dieu, il y a pas de problème et tout. Je vais me sauver et tout, quoi. Je vais juste lire une petite citation qui est extraite du livre de Nick Tosh qui s'appelle La main de Dante. Et où il est fortement question de beaucoup de religions et beaucoup de foi. Et c'est en fait vieux juif qui va instruire le jeune poète Dante avant qu'il n'écrive la Divine Comédie à propos des mystères de la religion et tout ça. Et il lui déclare « Je crois que chacun d'entre nous est le fils de Dieu, que chacun d'entre nous est le père de Dieu, que chacun d'entre nous est Dieu. Je crois qu'aucun homme ne devrait être désigné sous le nom du sauveur et placé au-dessus des autres, car le véritable et unique sauveur de chacun de nous-mêmes réside en lui-même et que c'est à lui-même qu'il revient soit de le découvrir et d'être sauvé, soit de ne point le découvrir et d'être damné. » Yes, man. Ça, c'était Nictoche, donc dans la main de Dante, dont je vous parlerai peut-être prochainement parce que j'ai pas encore fini de tout lire.
Je vois qu'effectivement, tu l'as marqué un petit peu partout, donc voilà, en cours de lecture.
Ce genre de bouquin qu'il faut lire deux ou trois fois, quoi, au moins, quoi, pour être vraiment dedans, quoi. Y a pas de problème. Donc, oui. Je récapitule. Le bouquin s'appelle donc This Is Gonna Hurt: Music, Photography and Life Through the Distorted Lens of Nicky Six. Et en même
temps, c'est chez Camion Noir.
Non, ça c'est l'édition américaine. Oh, donc c'est chez HarperCollins, si vous voulez tout savoir. Ok.
Moi je verrai.
Et comme le disque est sorti en même temps, qui s'appelle également This Is Gonna Hurt, le titre du nouveau disque de 6AM, le groupe de Nicky Six avec James Michael et DJ Ashba. DJ Ashba qui est également guitariste chez Guns N' Roses pendant la tournée de Guns N' Roses. Écoute un petit morceau.
Deadly Hound, extrait donc du nouvel album de 6AM, This Is Gonna Hurt. Et Thomas n'est pas là, malheureusement pour du sport, le jingle lui, il est là. Ah oui, tiens. Oh, je me suis trompé.
Ah ben non, tu t'es pas tellement trompé parce qu'en fait, en feuilletant mon programme télé de la semaine à venir, eh bien.
Non non, mais on l'a répété le gag. Hein,
y a pas, y a pas de série. Non, il y en a pas. Il y a pas de nouveauté. Il y a que Chi.
On aurait pu faire les actus sur les séries qui ont été annulées, celles qui suivent, puisqu'on a eu le programme la Fox et celui d'ABC. Mais voilà, sans plus. Hein, on fera une compilation la semaine prochaine.
On verra. Alors donc, dans la deuxième partie de mon intervention, c'est toujours les films à la télé, bien sûr. Et là, la thématique, eh bien, elle est pas compliquée. Actualité oblige. Des films durant toute la semaine. Alors si, il y a quelque chose qui change à la télé cette semaine. Ça concerne le bouquet de chaînes ciné-cinéma.
Non mais c'est pas que ciné-cinéma, c'est alors, toutes les chaînes du groupe Canal, toutes voilà. Sauf à l'exception de iTélé. Alors, mais ça fait rire tout le monde depuis un mois et demi.
Non, mais moi je trouve ça très très bien parce que bon, à partir du 17, c'est-à-dire mardi ou mercredi prochain, on ne dira plus ciné-cinéma plus star.
Ciné-cinéma premier, ciné-cinéma
club, family et tout ça, mais ciné plus. Alors, ce que je trouve très bien, parce que bon, je trouvais ça débile un petit peu de dire ciné-cinéma. Bon, je voyais pas le rapport.
Bon, hein. on va vous expliquer. Canal Plus a fait va faire du rebranding de toutes ces chaînes qu'ils possèdent. Donc, ça concerne pas seulement ciné-cinéma, ça concerne aussi Planète qui devient Planète Plus, Planète Plus Thalassa, Planète Plus Frisson, TJ qui devient TJ Plus, Canal J Plus. Qu'est-ce qu'il y a encore que Pee-wee, pardon, qui devient Pee-wee Plus, pardon. Il y a Infosport qui devient Infosport Plus, parce qu'ils avaient déjà Foot Plus, Rugby Plus.
Ouais, et Sport Plus, la chaîne Sport Plus. Hein.
Voilà. Et je me demande pourquoi ils n'ont pas rappelé iTélé Plus, du coup, parce que c'est la même police pour tout le monde, le même logo, Comédie Plus. Enfin, je trouve que ça fait un petit peu trop. Ceci dit, c'était un mouvement qu'ils avaient déjà fait, puisqu'en général, ils créaient les chaînes d'abord en France et ensuite ils exportaient dans leurs différentes filiales. Mais c'est vrai que les chaînes ciné-cinéma s'appelaient Ciné Plus en Espagne, un peu partout, etc. Là, ils font un branding. Ça change un peu des chaînes AB qui avaient chacune leur logo et tout. Chasse-pêche, Encyclopédie, Cinéfix, on se disait, c'est le même groupe là, parce que c'est pas du tout le même aspect. Là, ça fait un petit peu corporate, c'est un petit peu frisonnant. Non, mais d'un autre côté, Canal Plus se fait actuellement flinguer sur la gestion des programmes, parce que quand ils ont racheté le bouquet TPS, ils avaient obligation de mettre des chaînes à la disposition d'autres opérateurs, qu'on soit pas obligé d'être sur CanalSat. Le problème, c'est que toutes les chaînes qu'ils ont mises, ça soit Jimmy ou TPS Star, ont toutes énormément chuté en qualité.
C'est vrai.
Voilà. Donc du coup, c'est une manière de dire, ah ouais, mais celles-ci sont des chaînes qui sont en exclu sur notre bouquet. Donc voilà. C'est du branding un petit peu possessif.
Y a pas de problème. Et d'ailleurs,
moi je trouve ça pitoyable.
D'ailleurs, Canal Plus a reçu dernièrement une lettre.
Une mise en demeure du CSA.
Non, pas du. A reçu une lettre de réclamation de la part des Japonais, alors du gouvernement japonais, parce que les Guignols avaient fait deux sketchs sur la centrale de Fukushima. Dont l'un qui mettait en scène les ouvriers à l'intérieur de la centrale de Fukushima déguisés en Super Mario et tout le bordel, quoi. Et donc ça n'avait pas plu, hein, vu que ils trouvaient que c'était un petit peu trop et tout. Et Canal Plus a simplement répondu, oui mais attention, les Guignols se servent de l'actualité et tapent sur tout le monde sans distinction, donc y a pas de problème, laissez tomber. voilà, c'est comme ça, quoi.
Si on parle des Guignols, tu sais qu'il y avait des fondateurs des Guignols qui étaient partis en Afrique du Sud pour faire une version sud-africaine. Ça faisait 3 ans qu'il le faisait financer sur ses propres sous, uniquement sur le net, parce que personne ne le voulait. Et donc il a été obligé d'arrêter, puisque donc les chaînes ne voulaient pas, parce qu'ils disaient que leur public ne serait pas capable de faire une différence entre la fiction satirique et le réel.
Ouais, d'accord. Ouais.
On est des cons, hein.
Ouais. Et il y en a qui critiquent les histoires de quotas et tout ça.
On arrête les discussions de comptoir, il est 12h53 et toi tu veux parler du Giro.
Ouais, un petit peu quand même. Un petit peu. Mais pas que. Alors des films à la télé cette semaine, et comme bien on est en plein Cannes, ouais super, eh bien des films avec des membres du jury du Festival de Cannes. Parce que bon bah là ils ont fait d'habitude dans le jury du Festival de Cannes. il y a toujours au moins la moitié, voire les trois quarts, que le PK moyen, ils se disent, mais c'est qui ce mec, je connais pas, j'ai jamais vu, il est, c'est pas un people ça, quoi, je connais pas. Alors, cette année, là, ils ont fait les choses en grand, il n'y a pas de problème. Il y a vraiment des gens qui sont dans le cinéma à fond les manettes et tout. À l'exception, en fait, d'un réalisateur africain, je savais d'ores et déjà que c'était même pas la peine d'essayer de trouver un de ses films à la télé. Hein, même sur Arte.
Non, mais oublie manga. Arte maintenant. Oublie.
Et la productrice, il y a également une nana qui est écrivain, hein, Liliane Ullmann, plus une productrice asiatique. Le reste, bon, c'est des gens qu'on connaît relativement bien, avec un président du jury, surtout De Niro, hein, bien sûr, le réalisateur Johnny To, l'autre réalisateur Olivia Sayas, et les acteurs-actrices Uma Thurman et Jude Law. Donc, eh bien, est-ce qu'on peut les voir à la télé cette semaine, à ton avis? Eh bien, réponse tout de suite, ce soir, sur Canal Plus Family, à 22h30, Percy Jackson, je vous en ai parlé la dernière fois, il y a Uma Thurman dedans. Sinon, sur TPS Star, ce soir, à 22h15, Everybody's Fine, de Curve Jones, assez récent, 2009, avec Robert De Niro. Et il y a également Sam Rockwell, Drew Barrymore, Robert De Niro qui joue le rôle d'un mec assez âgé et tout, qui a perdu sa femme, mais qui a coupé les ponts avec ses enfants, et qui donc, à la suite de la mort de sa femme, décide d'essayer de parcourir les États-Unis pour essayer de les retrouver. Ça, c'est le pitch. Sur Ciné-Cinéma Premier également, ce soir, 22h45, Les Chemins de la Dignité de Gene Tillman, où De Niro va essayer de ne pas être raciste envers Cuba Gooding, qui veut être un plongeur sous-marin dans la marine américaine. Et il sera aidé pour cela par la très belle Charlize Theron, qui à l'époque était pas tellement connue. Sur TCM, à 20h40, toujours ce soir, ça m'étonne qu'il passe sur TCM, mais bon.
Dire que ce soir, il y a la finale.
Ouais. Midnight Run, l'excellent road buddy movie de Martin Brest.
Et la musique de Giorgio Moroder.
Avec De Niro, Charles Grodin, Yafet Koto. Film, moi j'aime bien, quoi. Il est fandard et tout.
Oui, il est fandard.
Non, non,
tu te rends compte comment en seconde on se l'est tapé au moins 6 fois, quoi. Hein, scène par scène à le décortiquer.
Ah, bah ouais. Non,
il est chaud. Hein.
Ouais. Demain, un seul film sur Ciné-Cinéma Star. Hein. Pour l'instant, c'est toujours Ciné-Cinéma Star. À 22h30, Goodfellas de Scorsese, les affranchis, donc avec De Niro, bien sûr. Lundi, sur Arte, à 20h40, Casino de Scorsese, donc De Niro. Lundi, sur France 4, à 20h35, Panique à Hollywood de Barry Levinson avec De Niro, qui joue le rôle d'un metteur en scène jugé très difficile et tout, qui va avoir beaucoup de difficultés à monter le casting et la production de son prochain film.
Je crois me souvenir que c'est une comédie.
Ouais, c'est une comédie.
C'est pas franchement
assez. Catherine Keener, Stanley Tucci. Non, pas du tout. Hein, c'est de la comédie. John Turturro, Michael Wincott. Bon, bah ok, hein, casting sympa quoi. Sur Cinéma Frisson, lundi, Existence de Cronenberg avec Jude Law. Et surtout Jennifer Jason Leigh, mardi sur
très noir, pas évident à rentrer, ouais. Donc attention, hein, si vous n'arrivez pas à accepter, par contre ça parle du jeu vidéo, de l'immersion, du réel et tout.
Eh ouais, avec des références à un ancien film de Cronenberg, Videodrome.
Ouais.
Longue
vie, la nouvelle chair.
Il faut avoir le feeling Cronenberg. Hein,
on n'y rentre pas comme ça.
Hein. Non, c'est bon.
Pas du tout.
Ou alors on est déjà bien pervers. Ça.
Oh.
mardi, ça commence mardi prochain. Ciné Plus Star à 22h15 vous propose Blessure secrète de Michael Caton Jones avec De Niro dans le rôle du beau-père, Ellen Barkin dans le rôle de la mère et Leonardo DiCaprio dans le rôle de l'enfant, l'ado un petit peu rebelle qui va pas tellement accepter qu'un nouveau papa rentre dans sa vie, suivi de Goodfellas de nouveau, c'est-à-dire Les Affranchis à 0h10 de Martin Scorsese. Mercredi sur Orange Ciné Nouveau, soirée spéciale De Niro, mais De Niro réalisateur. Bon, évidemment, quand il est réalisateur, il tourne également, il fait également l'acteur dans ses films.
C'est surtout un réalisateur en général, hein, le président du jury de Cannes. Donc,
deux bons films, hein, de toute façon. Quoi. En fait, il n'en a pas fait de mauvais en tant que réalisateur.
Non, de ce côté-là, il s'est abstenu. Il a
compris. Raison d'État, tout d'abord, avec Matt Damon et tout, qui revisite une grosse page d'histoire, on va dire, concernant les services secrets américains. Et ensuite, il était
très très instructif.
Ouais. Bon, assez touffu quand même. Hein.
C'est, ah, il faut bon, s'accrocher. Il faut sortir ses bouquins de civilisation américaine sur le côté.
Voilà. Mais sinon, bon bah, il y a pas de problème. Et puis tous les acteurs sont bons dedans. Il y a un casting, ça va. Donc c'est un bon film. Et celui du premier film qu'il a tourné en tant que réalisateur en 93, Il était une fois le Bronx, film autobiographique d'ailleurs, donc à voir hein, pour ceux qui l'ont jamais vu. Jeudi sur Paris Première, soirée De Niro bien sûr avec
j'ai eu peur là
quand même, ils ont trouvé des films qui sont pas les films qu'on a l'habitude de voir de Niro et tout. Tout d'abord de la part d'un réalisateur qui là fait plus grand chose à mon avis parce qu'il est très grillé à Hollywood vu la teneur de ses films qui sont toujours très polémiques hein. Il nous avait fait La Déchirure et là il s'agit de Mission de Roland Joffé.
Oui.
Les blancs n'en ressortent pas grandi, on va dire, hein, c'est clair.
Mais alors putain, mais qu'est-ce qu'il est bien ce film.
Ah ouais, et avec De Niro, avec Jeremy Irons et encore beaucoup d'autres.
Et une putain de musique pas de Léon, non, je dis une bêtise, c'est son copain.
Ennio Morricone.
Ennio Morricone est vraiment magnifique, très
bon. Et suivi d'un film qui s'appelle Trouble Jeu de John Poison en 2004. Avec bien sûr De Niro, Dakota Fanning et Famke Janssen. Encore une histoire d'enfants, de famille et tout. Film un petit peu intimiste et tout. Un registre dans lequel De Niro aime bien de temps en temps jouer. Hein, il aime bien faire des comédies, il aime bien faire des gros blockbusters et tout. Mais de temps en temps, il aime bien filer un petit coup de main comme ça, quoi. Et c'est ce qui se passe dans ce film. Diffusé sur Paris Première jeudi prochain à 22h45. Et on termine avec Vendredi. Et là, deux énormes monuments du cinéma, de toute façon, avec Robert De Niro, le premier, à chaque fois qu'il passe, on vous en parle, c'est évident. Hein, quoique, moi, je suis un petit peu en deçà par rapport à tout ce qui a été dit sur ce film, et puis cette confrontation entre De Niro et Al Pacino, c'est Heat de Michael Mann. Hein, je trouve pas que c'est le meilleur film de Michael Mann.
C'est la manière dont l'histoire est amenée. C'est vraiment une histoire qui est longue. Parce que c'est une traque et tout ça. Et il y a la déchirure d'un couple à côté, même de plusieurs. C'est là-dessus qu'il faut le regarder. Après, Michael Mann, c'est vrai que c'était le grand retour. Et puis le grand face-à-face, même si je crois que c'était croisé déjà auparavant dans un autre film.
Non, il s'était croisé, mais il jouait pas dans la même scène.
Il jouait pas dans la même scène, pardon. Voilà. Mais c'est deux monstres sacrés et tout. C'est vrai que ça a été survendu à l'époque. Mais personnellement, moi, je l'ai vraiment apprécié ce film. Au-delà de cela, justement, parce que c'est Michael Mann de ce côté-là voulait réécrire la manière dont on faisait un polar et la putain de bien fait, quoi. Ça valait le coup.
Et on termine avec un monument, moi que j'adore. Hein, c'est dans sa filmographie, c'est un des meilleurs, je trouve. Hein. C'est en deuxième position, on va dire, ou alors premier ex aequo. Sergio Leone en 84, Il était une fois l'Amérique. Là, je suis désolé les gars, pour ceux qui préfèrent.
Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est pas du western.
Non.
Voilà.
Non.
Et qu'est-ce que tu vois la famille? Fallait un Italien pour tourner une histoire sur l'histoire de la mafia italienne aux États-Unis.
Mafia italienne juive aussi, hein, parce que oui. James Woods dedans. C'est de la grande œuvre. C'est de la belle art, la belle façon, il n'y a pas de problème.
Mais surtout pour le final, on soupçonne pas l'usage des camions Ben.
Ouais. Et ça vous dit que l'opium, c'est vraiment pas bon pour la santé. Voilà. C'est clair. Ok, c'est tout ce qu'il y a pour cette semaine.
Sur la fin du disque.
Ah bah tu vois.
Bah ouais, bah super. Et 13h02, j'ai du mal à y croire, mais ma foi. On lance déjà le jingle de fin du sport, ma foi. Est-ce que tu as pensé à faire un résumé pour Thomas qui a dû prendre en cours de route l'émission sur le baladeur FM qu'il n'a pas sur son téléphone hyper coûteux?
J'étais en train de décrire la dernière réplique, là, tu vois. Alors,
c'est tout un art, le résumé.
Non, d'une pluie, ils en manquaient tout ça. Ah
non, c'est toi avant d'abord.
Ah oui, ok, ouais. Non, parce que attends.
Alors, attends, on reprend. du sport. Peux-tu faire le résumé pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route ?
Alors, dans cette émission, vous avez loupé une intro complètement ratée, mais à coup le pas, désolé. Un trou noir dans la neige de Lewis Trondheim, on ne saura toujours pas. La neige de Lewis Trondheim, bon, bah, ok. Mais
non, c'est pas de Lewis Trondheim le bouquin, non, je me suis trompé.
Ensuite, 10 minutes de psychopathe, du métal dans Supplément Week-end, si, si, c'est vrai, avec Nicky Six. Des plus partout à la télé, partout il y a des plus. Ouais, pourtant c'est plutôt moins quoi qu'on dirait.
Point de vue qualitatif, hein, ça baisse.
Voilà. Et surtout plein de films avec Robert De Niro. Magnifique.
Nom d'une pluie. Vous avez manqué tout ça, heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission, reprendre depuis le début, reprendre quand les chroniques ont été parfois passées un peu vite, ou accélérer si c'est parfois un petit peu chiant, et aussi retrouver les chroniques écrites, refouiller dans vos archives, jouer à des quiz stupides, et plein d'autres choses. Laissez vos commentaires, et par exemple, eh merde, j'ai oublié d'y aller, du coup, j'ai oublié d'aller sur le site de l'émission, mais par exemple, c'était un truc, parce que c'est vrai que ça faisait quand même depuis 4 mois que j'avais pas mis à jour mes chroniques. Et ben, il y a des chroniques qui sont arrivées. Ça faisait un bail. Allez, putain! Il est lent, hein, excusez-moi, hein, on est en ADSL théoriquement. Retrouver la chronique notamment de Yoko Tsuno et plein d'autres choses. Et pour cela, c'est très simple, il suffit d'aller sur le site web supplémentweekend.fr. Supplémentweekend.fr sans accent ni tiré. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz. Nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM et on continue sur www.radio-fmr.net. N'oubliez pas, cet après-midi, eh ben, il y aura une dédicace en ombre blanche. Voilà, je l'ai oublié. La semaine prochaine, Jason, qui dédicacera l'île aux 100 000 morts. Ce sera à la librairie Gilbert Joseph. Ce sera samedi prochain. Je te cède la place du coup, du voilà. Tu vas pouvoir pédaler pendant une heure. Non, 55 minutes. Ciao, bye bye, on se retrouve la semaine prochaine. C'était un petit peu crevant aussi, hein. Faut dire qu'on a tourné mercredi soir, c'était un peu lourd.